Bien, il y a un temps pour tout, un temps pour l'homme de s'exprimer devant son Créateur, un temps pour l'homme de s'approcher avec foi de Dieu pour le louer, pour l'adorer, pour assumer sa vocation d'être des sacrificateurs dans le royaume de Dieu, un temps où nous laissons tout derrière nous pour nous jeter dans ses bras d'amour, pour lui parler d'une manière ou d'une autre, pour crier à lui, pour lui faire connaître nos besoins, pour nous attendre à ce qu'il puisse nous visiter d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi un temps où Dieu veut nous parler. Et pour qu'il nous parle, nous avons tout intérêt, mes amis, à être attentifs, à être concentrés, à ne pas nous laisser distraire par nos préoccupations, quelle que soit leur nature, mais à être là, avec une attention soutenue, s'attendant à ce que d'une manière ou d'une autre, eh bien, qu'il nous parle au travers de sa parole. Alors, ce moment est arrivé. Amen. Je voudrais revenir une fois de plus sur ce thème qui nous accompagne depuis le mois d'octobre, car j'ai démarré ce thème, c'était le dimanche, le premier dimanche du mois d'octobre, et beaucoup, beaucoup de choses ont été dites. Et je voudrais une fois de plus revenir là-dessus. Il va donc être question une fois de plus de l'incompréhensible dans la compréhension du plan de Dieu pour nos vies. Il va donc être question de cette difficulté que vous et moi avons pour comprendre tout ce que le Seigneur accomplit pour notre vie et dans notre vie au travers des différentes circonstances et dans la plupart des cas des circonstances qui nous sont défavorables, désagréables, des circonstances difficiles. Et une fois de plus, nous allons revenir à notre passage qui nous a servi de base à cette réflexion, à savoir Jean 13, cette scène du lavage des pieds, les pieds des disciples par le Seigneur lui-même, par Jésus-Christ. Jean 13, les 12 premiers versets, nous allons lire très rapidement. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, Jésus se leva de table, et prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi, tu n'as point de communion avec moi, tu n'es point lié à moi, tu n'es point uni à moi. » Et nous verrons un peu plus en profondeur ce passage. Simon-Pierre, verset 9, lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur, et vous êtes purs, non pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, Jésus se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait. » Amen. Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Avez-vous saisi le sens, le bien fondé de ce que je viens de faire pour vous? Scène ubuesque, scène surprenante, que celle de voir le Fils de Dieu s'abaisser autant pour laver les pieds de ses disciples. Alors que d'ordinaire, c'était une responsabilité, une tâche réservée aux serviteurs. et en l'occurrence aux non-juifs. Mais là, c'est lui le maître, c'est lui le Seigneur des Seigneurs qui prend cette initiative, qui se penche comme un vulgaire serviteur, un vulgaire esclave, pour laver les pieds de ses disciples. Évidemment, ce geste suscite une réaction de la part de Pierre. Et tout au long de ce message, nous avons vu, à partir de la réaction de Pierre, Pierre qui n'a pas compris pourquoi son Seigneur agissait ainsi, et à qui le Seigneur a dit ce que je fais, eh bien, tu ne peux le savoir, tu ne peux le connaître, tu ne peux le comprendre dans l'immédiat. Cependant, tu le comprendras dans la suite. À partir donc de la réaction de Pierre, nous avons donc mis en évidence le fait qu'il est très très difficile, voire très 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 difficile pour chacun de nous de comprendre, mes amis, pourquoi le Seigneur fait ceci, pourquoi il permet tel événement, pourquoi nous fait-il passer par ces tunnels sombres. Pourquoi accepte-t-il que nous soyons humiliés d'une manière ou d'une autre? Oui, lorsqu'il est question de saisir le sens de tout ce qui survient dans notre vie, de tout ce qui advient dans notre vie. Oui, lorsqu'il est question de comprendre pourquoi cela nous arrive, en quoi cela va-t-il glorifier le Seigneur, ce qui nous arrive d'agréable ou de désagréable. Nous nous posons cette question, mais en nous posant cette question, nous réalisons combien c'est difficile, combien notre intelligence, eh bien, ne peut pas nous amener à une compréhension totale, entière et parfaite, mes amis, du sens, du bien fondé de tous les événements qui nous arrivent. Et gloire à Dieu. Ce fut donc la réaction de Pierre dans cette scène qui désormais nous est familière. Quand Jésus arrive devant Pierre, nous l'avons lu, celui-ci réagit et dit au Seigneur, « Toi, Seigneur, toi le Fils de Dieu, toi le Messie, toi à qui j'ai confié ma vie, ma destinée, toi tu me laverais les pieds, pas question, tu ne vas pas me laver les pieds. » Pour Simon Pierre, il était inconcevable, il était inexplicable que Jésus le Messie, Jésus le Fils de Dieu, puisse s'humilier à ce point en se penchant, comme je le disais, comme un vulgaire serviteur, un vulgaire esclave, avec une simple linge autour de sa taille pour laver et essuyer les pieds de ses disciples. Donc c'était incompréhensible ce que Jésus faisait. C'était le monde à l'envers, nous en avons parlé pendant plusieurs dimanches. Je vous rappelle simplement, avant d'atterrir dans la leçon dont il va être question aujourd'hui à partir de cette scène, pour Pierre, son Seigneur ne pouvait pas se soumettre à un tel déshonneur. Ce n'est pas possible qu'il s'humilie autant. En quoi ce qu'il fait va-t-il m'édifier? En quoi ce qu'il fait va-t-il le lever dans ma vie? Alors que c'est un geste, de par sa nature, un geste d'humiliation. Oui, en quoi tout cela va-t-il contribuer à mon édification? Pierre ne pouvait pas comprendre. Je suis convaincu que les autres disciples n'avaient pas non plus compris. Mais lui a eu le courage de répondre de cette manière, de réagir de cette manière, en disant, Seigneur, toi, tu ne me laveras pas les pieds. Il n'est pas du tout question. Et c'est là que le Seigneur lui donne cette réponse. Cette réponse qui a fait l'objet de plusieurs développements, c'est que je fais, toi Simon Pierre, tu ne le sais pas. Ce que je fais, c'est à quoi je suis en train de me livrer. Tu ne peux pas le comprendre maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. C'est que moi, Jésus, le Seigneur des Seigneurs, est en train de faire ici, tu ne peux pas le saisir. Tu ne peux pas réaliser son bien fondé, le sens de ce que je fais, mais tu le comprendras plus tard. Et de cette histoire, nous avons tiré deux grandes leçons, très rapidement. deux grandes leçons. Nous avons mis en exergue deux grandes vérités, des vérités dont nous avons besoin. Car notre vie de disciple est une vie marquée par toutes sortes d'épreuves. Notre vie de disciple, mes amis, est une vie qui nous fait passer dans la plupart des cas, et ce malgré notre fidélité envers Dieu, et ce malgré notre consécration, nous fait passer par toutes sortes de chemins rocailleux, par des sentiers où il y a des épines, il y a des chardons qui nous piquent, nous fait passer par des moments où nous devenons la risée de tout le monde, où les gens nous regardent et se disent, mais lui qui a toujours prétendu que son Dieu était tout puissant, qu'il avait solution à tout, comment expliquer que son Dieu n'agit pas dans cette situation? Deux grandes leçons. La première, qui nous a pris quelques dimanches, eh bien, c'est que, mes amis, en tant que disciples de Jésus, eh bien, notre vie de disciples, notre vie de chrétien consiste à faire confiance à Jésus aujourd'hui, à faire confiance à Jésus maintenant et à le comprendre plus tard. Je ne sais pas pourquoi il me fait passer par là. Je ne sais pas pourquoi il permet que tel événement surgisse dans ma vie. Je ne peux pas le comprendre. Eh oui, notre vie des disciples va consister en cela. Faire confiance au Seigneur. Lui donner toute notre confiance alors que nous ne comprenons pas pourquoi cela nous arrive. Nous ne le comprenons pas dans l'immédiat. Et puis, plus tard, comme lui-même le dit, alors nous le comprendrons. Alléluia. Faire confiance au Seigneur aujourd'hui. Faire confiance à Jésus aujourd'hui pour le comprendre dans la suite. Le comprendre demain. Le comprendre après-demain. Le comprendre 6 mois, 3 ans plus tard. Alors on s'est dit, Seigneur, maintenant je comprends. Pourquoi tu avais permis que cela m'arrive? Sur le champ, j'ai pleuré. Sur le champ, je me suis senti abandonné. Sur le champ, j'ai été humilié. J'étais devenu la risée de tout le monde. Les gens ont profité de l'occasion pour tourner en dérision ma foi en toi. Mais maintenant, Seigneur, je comprends pourquoi tu m'as fait passer par là. Mes amis, le Seigneur ne se trompe jamais dans l'accomplissement de ses projets pour nos vies et à travers nos vies. Le Seigneur a un projet pour chacune de nos vies. Le Seigneur a un plan pour nos vies. Et tout ce qui va nous arriver, tout ce qui va surgir, advenir dans notre vie, alors que nous marchons avec lui, tout cela, mes amis, alors que nous ne le comprenons pas, tout cela finira par concourir à notre bien. Alléluia. Gloire à Dieu. La deuxième leçon, on en a parlé un tout petit peu, c'était le dimanche 12 novembre, puisque au soir, eh bien, Maman Gisèle et moi-même, nous sommes partis. La deuxième leçon, et c'est sur cette leçon que nous allons nous attarder aujourd'hui, c'est que, mes amis, il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est que le Seigneur est en train d'accomplir, au travers de tous ces événements difficiles, au travers de toutes ces épreuves, eh bien, tout cela a un objectif. Et l'objectif ultime que le Seigneur poursuit en permettant cela, c'est notre sanctification. Et aujourd'hui, nous allons le voir. Comment ces situations difficiles, ces situations adverses, comment au travers de tout cela, le Seigneur accomplit cette œuvre de sanctification qui est indispensable si nous voulons demeurer en communion avec lui. Pierre a dit, Seigneur, tu ne me laveras pas le pied parce qu'il ne comprenait pas pourquoi il le faisait. Et le Seigneur lui a dit, eh bien, si tu refuses, tu n'auras pas de part avec moi. Et nous en parlerons d'un moment à l'autre. Si je ne te lave pas, toi Pierre, si tu ne me laisses pas faire ce que je suis en train de faire dans ta vie, alors même que tu ne comprends pas, eh bien, sache que tu n'auras pas de part avec moi. Sache que tu vas perdre la communion avec moi. Tu ne seras point lié à moi, uni à moi. Laisse-moi alors poursuivre ce travail, et tu le comprendras plus tard. Le Nouveau Testament, parole vivante, qui est la traduction d'Alfred Kuhn, pour ceux qui lisent la Bible, Kuhn, pas Q-N. Alfred Kuhn, le Suisse, il dit ceci, je cite, « Si je ne te lave pas, tu n'auras plus de communion avec moi, ou tu ne seras plus en communion avec moi, ou alors, si je ne te lave pas, tu ne m'appartiens plus. Ça n'est fini entre nous. » Il y a donc une alliance, et dans cette alliance, nous devons continuer à lui faire confiance, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi il nous fait passer par là. Même si nous ne comprenons pas pourquoi tel ou tel autre événement qui nous fait pleurer surgit, advient dans notre vie. Et il continue, « Si je ne te lave pas, tout sera rompu entre nous. » Oh, alléluia. Tu ne peux pas rester lié, uni à moi. Mes amis, voilà ce que ça veut dire, avoir part avec le Seigneur. C'est être en communion avec lui. C'est participer à sa nature. C'est entrer dans une relation de plus en plus intime. Et pour cela, il faut laisser le Seigneur continuer à faire ce qu'il est en train de faire, alors même que nous ne le comprenons pas. Comment avoir part avec le Dieu Saint, le Dieu de la Bible, qui se révèle comme étant le Dieu Saint ou le Dieu de sainteté? Comment avoir part avec lui, participer à sa sainteté, si nous ne le laissons pas nous sanctifier? Ne l'oublions pas, 1 Thessaloniciens 4:3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais en ce qui concerne la notion de sanctification, eh bien, comme nous allons le voir, nous l'avons réduite à simplement ce qui est moral. Nous allons le voir. Voilà, il faut se sanctifier en vivant, en menant une vie qui respecte les 10 commandements. C'est vrai. En obéissant à telle ou telle autre injonction que nous trouvons dans la parole. C'est vrai. Mais nous allons voir que la sanctification est une notion complexe. Comment pourrions-nous expérimenter l'œuvre de sanctification en nous, au travers de tous ces événements que le Seigneur permet dans notre vie, au travers de ces moments difficiles que nous connaissons? Comment expérimenter la sanctification à travers les épreuves que nous traversons et qui nous paraissent inexplicables? Quel lien y a-t-il entre ma situation présente, c'est-à-dire en proie à toutes sortes de difficultés, et la sanctification? Eh bien, nous allons voir que le Seigneur nous sanctifie aussi lorsque nous passons par des moments difficiles, lorsque nous connaissons des événements terribles, mais à une condition. Et c'est de cette condition dont il va être question. Amen. Avant d'aller plus loin, essayons de définir un tout petit peu ce que la Bible entend par ce mot sanctifié, car ce concept de sanctification est une notion, est une question plus complexe qu'il n'y paraît. Vous savez que nous avons souvent l'habitude d'avoir des approches très réductionnistes par rapport à certaines vérités de la parole. On prend un verset, on prend un passage où un concept de la Bible est mis en évidence, et puis à partir de ce que nous avons lu, à partir de ce qui est dit à propos de cette vérité, nous tirons la conclusion quant à la définition du concept, et nous nous arrêtons à cette conception. Attention! Il faut prendre la parole de Dieu dans sa globalité. Alléluia. Il faut prendre la parole dans sa totalité. Oui, la sanctification est une notion essentielle pour notre vie spirituelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sanctifier? Nous l'avons vu en introduction la dernière fois. Que sanctifier signifie littéralement mettre à part. C'est très simple. Mettre à part. Mais si cette compréhension est juste, si cette compréhension est facile à saisir au premier abord, eh bien ce sont ses conséquences qui sont les moins évidentes, comme nous allons le voir tout de suite à partir du texte que nous avons lu la fois dernière, à savoir Nombre chapitre 20, versets 7 à 13, et gloire à Dieu, où nous allons esquisser une première ou une des définitions de cette notion complexe de la sanctification telle que la Bible nous la révèle. Nous allons lire très rapidement Nombre chapitre 20 à partir du verset 7. D'abord le contexte. Le peuple est en route depuis qu'il avait été délivré d'Égypte. Il est en route, conduit par le Seigneur. Ce n'est pas Moïse qui déterminait la direction à suivre. Ce n'est pas Moïse qui décidait qu'on aille vers le nord ou vers le sud. C'est Dieu lui-même qui conduisait son peuple. Cela est important. Moïse n'avait pas de GPS. Moïse n'avait pas de boussole pour dire, bon voilà, la terre promise, c'est par là. Allez, venons. Aaron, qu'est-ce que tu en penses? Oui, nous allons aller tout droit. Nous allons faire 3 jours de marche, nous allons nous reposer, et puis ensuite, nous prendrons à droite. Pas du tout. C'est Dieu lui-même qui conduisait son peuple, par une colonne de nuée, le jour, et par la colonne de feu, la nuit. Et donc, tout ce qui est arrivé à Israël, durant ses pérégrinations à travers le désert, depuis sa sortie d'Égypte, n'était pas le produit du hasard. Le Dieu qui les avait délivrés était à l'œuvre parmi son peuple. Mais malheureusement, ce peuple a eu des difficultés énormes à comprendre la manière d'agir du Dieu de la Bible, du Dieu d'Abraham. Alléluia. Et là, ils arrivent à Kadesh. Et dans le mont Kadesh, il y a le mont Kadosh, saint. Un lieu qui s'appelle quelque part sainteté. Ils s'arrêtent. C'est Dieu qui les avait conduits. Et il se trouve que dans ces lieux, en plein désert, il n'y avait pas d'eau. C'était un plein désert. Pas moyen de semer. Pas d'arbres fruitiers. Rien du tout. Et c'est là qu'ils arrivent. Et c'est là qu'ils s'arrêtent. Et c'est là que les problèmes vont surgir. Et là, verset 7, le problème d'abord, c'est que le peuple, n'ayant pas de quoi manger, plutôt, ne pouvant pas semer, ne pouvant pas boire, le peuple se révolte contre Moïse et Aaron. Le peuple se met à murmurer. Ce n'est pas possible. Comment nous as-tu fait arriver ici? Comme si c'est Moïse qui décidait. Voyez-vous, comment tu as fait? Il fallait nous laisser soit mourir comme les autres, plutôt que de nous amener dans cet endroit qui est mauvais. Ils réagissent par la vue. Mes amis, nous sommes appelés à marcher par... avec leurs yeux. Eh bien, ils sont arrivés à une conclusion à laquelle n'importe quel esprit cartésien serait arrivé. C'est un endroit désertique, aride, il n'y a pas d'arbres fruitiers, il n'y a pas d'eau, et par conséquent, nous allons mourir. Ça, c'est la réflexion logique. Là, c'est la réflexion naturelle. Mais mes amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à marcher selon ce que nous voyons. Mais nous sommes appelés à marcher selon la parole de Dieu. À marcher par la foi. Si Dieu est en nous, si Dieu est avec nous, si nous sommes sûrs que celui qui conduit nos pas, alors là où nous sommes maintenant, là où nous pleurons, là où on nous humilie, eh bien cela est conforme à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Et... face à ces murmures, face à cette révolte, mes amis, Moïse et Aaron vont avoir un bon réflexe. Ils vont se tourner vers le Seigneur. Ils vont se présenter vers Dieu. Ils en avaient jusque-là, mes amis, parce que nous sommes presque à la fin des 40 ans d'errance dans le désert. 40 ans supportaient les murmures. Et ceux qui murmuraient là, c'étaient les enfants des anciens murmureurs qui eux-mêmes étaient déjà morts. Vous voyez, si nous ne faisons pas attention, nous risquons de communiquer des antivaleurs à la génération suivante. Nous avons tout intérêt à vivre dans la sainteté. Cela finira par impacter notre postérité. Alléluia. Et nos enfants se souviendront. Quand ils passeront par des moments difficiles, ils se diront, oui, nous nous souvenons de nos parents. Quand ils sont passés par telle ou telle autre situation, ils avaient tenu bon. Ils avaient levé les yeux vers le ciel et Dieu avait fini par les visiter. Mais si les enfants nous voient murmurer, pour un rien nous nous révoltons. Pour un rien nous nous mettons à faire du chantage à Dieu. D'ailleurs, tu vas voir. Voilà. Si nous nous mettons à réagir de cette manière, eh bien nous transmettrons ces attitudes abominables et horribles à la postérité. C'est ce qui est arrivé. Ceux qui murmurent là, ceux qui se sont révoltés à Kadesh, notez bien le mot, Kadesh, ceux qui ont contesté avec Dieu, eh bien c'étaient les enfants des anciens contestateurs. Voyez-vous, on finit toujours par récolter ce qu'on a semé. Quand on sème le murmure, on récolte la contestation. On commence à contester avec Dieu, ce n'est pas possible. Et pourtant, je suis très consacré. Je suis présent ou présente à toutes les réunions de la borne. Voilà. Je confesse la victoire, je partage mon témoignage ou le témoignage selon lequel Jésus est tout puissant, il a solution à tout. Voilà maintenant que je suis dans ce trou et je ne vois pas ce Seigneur agir. Les gens se moquent de moi. Les gens tournent en dérision mes convictions chrétiennes. Que faire? Et voilà, Moïse se tourne vers le Seigneur. Et verset 7, nous revenons à notre lecture. Le Seigneur répond, Dieu parle toujours. Pour autant qu'on le cherche avec un cœur digne. Moïse, plutôt Dieu, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends le bâton et assemble la communauté. Toi et ton frère Aaron. Dieu parle toujours de manière claire. Voilà. Le message du Seigneur a toujours été, on ne peut plus clair. Il ne joue pas au cache-cache ou au scrabble. Il vous donne une lettre, trois, quatre lettres, allez constituer le mot et puis constituer la phrase, vous ne comprenez pas du tout. Ce n'est pas abscon avec Dieu, tout est clair. Vous parlerez sous leurs yeux au rocher. Et le rocher donnera ses eaux. Tu feras sortir de l'eau du rocher et tu abreuveras la communauté et le bétail. Moïse entend, c'était très clair. Il n'avait pas besoin que son frère Aaron lui explique. Voilà. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit. Écoutez donc, rebelles. Là, il laisse éclater sa colère. Là, il n'en pouvait plus. Il est irrité, agacé. Il y avait de quoi. Mais cela ne justifie pas son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu qu'il avait reçue. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous, qui Moïse et nous vous ferons sortir de l'eau? Est-ce que Dieu leur avait dit que c'est eux? Il faut bien lire la parole. Hein. Donc ça nous montre que là, il réagit par dépit. Il en a assez. Voilà. Il est complètement obnubilé par sa colère. Il n'arrive plus à supporter tout cela. 40 ans de murmures, il est usé. Voyez-vous, il est fatigué. Il devient nerveux, rebelle. Est-ce de ce rocher que nous, mon frère Aaron et moi, nous vous ferons sortir de l'eau? Il ne s'arrête pas là, hein. Il prend le bâton, hein. Il lève la main et frappe deux fois le rocher avec son bâton. Résultat, il sortit de l'eau en abondance, c'est vrai. La communauté but et le bétail aussi, c'est vrai. Mais regardez la réaction du Seigneur vis-à-vis de Moïse. Certes, le miracle a eu lieu. Et je vous dirai avant d'aller plus loin, qu'il a accompli le miracle, non pas parce que Moïse a frappé le rocher deux fois. Il lui a jamais demandé de frapper le rocher.
Il a agi ainsi par égard à son nom. Oh, alléluia. Il avait délivré ce peuple, non pas pour l'abandonner en plein désert, mais plutôt pour conduire ce peuple, comme il avait promis à Abraham, son ami, le conduire jusque dans la terre promise. C'est par égard pour son nom, par égard pour sa renommée, pour que les nations adverses et les Égyptiens en premier ne disent pas, vous voyez, leur Dieu, il les a délivrés pour les abandonner en plein désert. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le texte s'était arrêté là, on aurait pu acclamer, oh là là, formidable, deux coups de bâton, bah, bah, fimbo, deux fois, et l'eau jaillit du rocher, et les gens boivent. Vous et moi, on aurait dit quoi? En tant que pentecôtiste, oh gloire à Dieu! On se serait mis à parler en langue. Mais regardez la suite. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, ah, vous n'avez pas eu foi en moi et dans ma parole pour me sanctifier aux yeux des Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et la Bible ajoutait, ce sont les eaux de Meriba, les eaux de contestation, en cet endroit qui s'appelle Kadesh, sainteté, eh bien cet endroit, malheureusement, devient un lieu de contestation, à savoir Meriba, lieu où les Israélites contestèrent avec l'Éternel, l'Éternel qui fut sanctifié parmi eux. Donc malgré tout cela, il a fini par se sanctifier lui-même. N'est-ce pas? Vous me suivez? Il a fini par se sanctifier à lui-même parmi son peuple. Nous allons voir en quoi cela consistait. Alors qu'il avait demandé à Moïse et à Aaron de faire quoi? De le sanctifier devant Israël. Mes amis, qu'est-ce que Dieu, comme nous l'avions vu la fois passée, qu'est-ce que le Seigneur attendait de Moïse et d'Aaron? Eh bien, qu'ils respectent, qu'ils obéissent entièrement aux injonctions du Seigneur, qu'ils exécutent les ordres donnés, des ordres qui étaient clairs. Lesquels? Parler simplement au rocher et ce, en présence du peuple. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Dieu ne leur a pas demandé de faire tout ce qu'ils ont fait là. Voyez-vous? Non! Moïse, Aaron, convoquez l'assemblée, tenez-vous devant l'assemblée, en face du rocher, et parlez au rocher. Et le rocher donnera de l'eau. C'était clair. Mais Moïse, certes agacé, Moïse, certes irrité, par les murmures incessants, par la révolte récurrente du peuple, ce qu'on peut comprendre, voyez-vous, eh bien, va désobéir doublement. Premièrement, au lieu de parler au rocher, qu'a-t-il fait? Il a parlé au peuple. Est-ce que Dieu lui a demandé de parler au peuple? Et comment a-t-il parlé au peuple? En l'invectivant. Voilà. Rebelle! Première désobéissance. Deuxième désobéissance. Au lieu de parler au rocher, lui prend le bâton et il frappe le rocher. Mes amis, aux yeux, et ça nous l'avions vu, aux yeux du Seigneur, cette désobéissance de Moïse est un véritable manque de foi. Et la résultante de cette désobéissance, la résultante de ce manque de foi, de ce manque de confiance dans la parole qu'ils ont reçue de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur n'a pas été sanctifié par Moïse. Alléluia. En d'autres mots, Moïse n'a pas fait éclater la sainteté de Dieu. Comment ça? Eh bien, en laissant Dieu lui-même faire éclater sa grandeur, faire éclater sa puissance, simplement parce que Moïse a obéi. Il se serait tenu le rocher en présence du peuple. Il aurait pu parler au rocher au nom du Dieu d'Abraham, au nom du Dieu d'Israël, au nom de celui qui nous a délivrés d'Égypte. Rocher, que de toi sorte de l'eau. Et le Seigneur aurait accompli sa parole. C'est qu'il n'a pas fait. Mes amis, sanctifier Dieu dans ces conditions difficiles veut dire laisser Dieu continuer à nous travailler pendant que nous sommes humiliés, pendant que nous traversons des épreuves. Laisser Dieu dans notre vie occuper la première place, continuer à lui faire confiance jusqu'au jour où son heure venue, eh bien, il s'élève de son trône, vienne à notre rencontre et nous donne la solution. À ce moment-là, il fait éclater sa grandeur. À ce moment-là, eh bien, il est sanctifié. Ainsi les gens voient, ainsi les gens contemplent la démonstration de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Voilà comment il peut. Il est sanctifié. Voyez-vous? Lorsque nous passons par des épreuves, vous m'entendez avec le bruit de crépitement, la pluie? Si vous m'entendez là-bas, faites ceci, comme ça je vois. Ah ben très bien, parfait. Lorsque nous passons par des épreuves, sans savoir pourquoi le Seigneur nous fait passer par là, perte d'un emploi, échec dans tel ou dans les affaires, lorsque nous avons affaire à des difficultés de tout genre, faisons face à des montagnes de problèmes sans comprendre pourquoi. Comme Israël. Israël n'a pas compris comment ce Dieu-là les avait conduits en cet endroit à Kadesh où il n'y avait rien. Pas d'eau, pas d'arbres fruitiers, rien du tout. Israël n'avait pas compris et souvent, nous aussi, nous ne comprenons pas pourquoi. Dans cette... Allez, le mot ne vient pas. Dans cette restructuration de l'entreprise, notre nom se trouve en tête de gens qui doivent partir. Nous ne comprenons pas pourquoi. Nous nous mettons à pleurer, « Seigneur, je vais perdre mon emploi. Je sais combien j'ai besoin de ça. Mon frère, ma sœur, si tu es avec Dieu, eh bien dis-lui merci. Je connais une sœur qui est là, qui travaillait quelque part, après autant d'années. » Et puis un jour, on lui dit, non, tu dois partir, tu prends son décompte. La sœur a commencé à chercher du travail, elle a constitué son dossier, elle est venue à la maison, nous avons eu à prier, elle a frappé à plusieurs portes, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur lui ouvre la porte d'une grande ambassade, ici à Kinshasa. Voilà, elle ne pouvait pas comprendre. Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Je ne comprends pas. J'ai besoin de ce travail. Mais Dieu avait mieux pour elle. Gloire à Dieu. Quand nous passons donc par ces moments difficiles, les gens peuvent se déplacer, sentez-vous libre. Si vous voyez qu'il y a de la pluie qui commence à vous éclabousser, vous pouvez bouger, je vous le permets, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas que vous puissiez être distrait par tout ça. Merci. Eh bien, quand nous nous retrouvons dans ces moments d'épreuve, nous devons savoir que ces moments sont une mise à part, oh alléluia, une mise à part de la part du Seigneur pour qu'il se sanctifie dans notre vie, c'est-à-dire pour qu'il nous démontre sa grandeur, sa puissance, pour qu'il se révèle comme étant le Dieu qui a solution à tout, là où il n'y a pas d'arbre. Là où il n'y a pas d'eau, eh bien, lui est capable de créer le miracle. Alléluia. Voilà la nécessité de garder, de faire preuve de patience et de persévérance. En demeurant là où Dieu nous conduit, en ayant confiance en lui, alors que nous passons par des moments très difficiles, alors que nous faisons face à toutes sortes de tempêtes, eh bien, nous donnons l'occasion au Seigneur de nous émonder, de nous façonner. Nous pleurons, les gens se moquent de nous, mais lui sait pourquoi il nous fait passer par là, alléluia. Bref, à travers notre obéissance, notre foi,
Le Seigneur nous sanctifie. Alléluia. Il nous démontre sa puissance. Pour autant que nous restions fermes dans ce temps-là, que nous ne cherchions pas à faire comme les autres feraient. Nous sommes mis à part. Les gens du monde, dans notre situation, réagiraient autrement, n'est-ce pas? Ils iraient chercher le secours partout. Ils secoueraient toutes sortes de cocotiers pour avoir des solutions. Mais nous ne marchons pas de cette manière. Nous continuons à garder notre confiance en lui. En cela, eh bien, nous nous mettons de plus en plus à part pour le Seigneur jusqu'à ce que son heure arrive ou de son trône de gloire, il se lève et qu'il étende sa main sur nous pour nous manifester sa gloire. Quelquefois, nous allons bientôt terminer, quelquefois, ces situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons, quelquefois ces situations-là sont une occasion pour le Seigneur de nous corriger, de nous discipliner. Il est notre Père. Quelquefois il nous parle, nous nous entêtons, il nous interpelle, nous faisons fi de son interpellation. Il fait tout pour que nous comprenions que ce chemin l'a conduit à la perdition. Eh bien, pour finir, que fait-il? Il nous amène comme dans une sorte de cul-de-sac. Nous ne savons où aller. Et là, il nous corrige. Et là, nous nous retrouvons dépourvus de tout. Hébreux 12, versets 10 à 11, nous le dit. La deuxième partie. Mais Dieu nous corrige pour notre véritable intérêt, afin de nous faire participer à sa sainteté. Vous voyez le but? Nous faire participer à sa sainteté. Et la Bible continue. Toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse. C'est difficile et non de joie. Mais plus tard, la correction procure toujours un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Donc au travers de ces situations difficiles, qui sont une correction pour nous, le Seigneur nous forme, le Seigneur nous éduque, le Seigneur nous donne des compétences dont nous avons besoin pour continuer, poursuivre notre marche. Amen. Ainsi, ce récit biblique de Nombre 20 nous permet d'esquisser une des définitions de la sanctification. Quelle est cette définition? Quand Dieu dit « Vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux d'Israël », première ou une des définitions, c'est que la sanctification est une obéissance sans faille, totale et entière à la volonté de Dieu. Si c'est dans la volonté de Dieu que nous soyons dans ce trou noir, que nous passions par des moments de tempête, eh bien, obéissons simplement, ne nous mettons pas à murmurer ou n'essayons pas de prendre de petits sentiers pour en échapper. Laissons Dieu poursuivre son œuvre, car c'est ça la sanctification, une obéissance totale, une obéissance sans faille, une obéissance entière à la volonté de Dieu. Donc sanctifier Dieu, c'est obéir à Dieu en lui donnant gloire. Et Moïse n'avait qu'à obéir simplement. Seigneur, je n'ai jamais entendu ou vu quelqu'un parler à un rocher. N'est-ce pas? Je n'ai jamais vécu ça. Mais puisque tu me demandes, avec toi tout est possible, je ne sais pas comment le peuple va interpréter. Le peuple va-t-il me prendre pour un illuminé, pour quelqu'un qui aurait perdu la raison au point de commencer à parler aux pierres, c'est tenir un rocher, tu commences à parler. Peut-être que même dans l'assemblée, les gens se sont regardés et disent non, Moïse est en train de perdre ses pédales. Comment il peut se tenir devant le rocher et croire que de ce rocher, l'eau sortirait? Mes amis, avec Dieu, tout est persévère. Reste dans cette situation où tu es constamment exposé à la pluie des épreuves. Voyez-vous? Et donc, cette pluie tombe tout le temps. Tu ne sais pas pourquoi. Seigneur, mais lui sait. Fais-lui confiance. Alléluia. Cela est important. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai souligné, quand nous parlons de la sanctification, nous pensons toujours à l'aspect moral de la vie chrétienne. C'est-à-dire, il ne faut pas tuer, il ne faut pas commettre adultère, il ne faut pas mentir, voyez, il faut obéir tout ce que la Bible dit. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, nous avons réduit la sanctification à seulement ce qui est moral. Et quand nous menons une vie morale, impeccable, eh bien, nous pensons que c'est ça, toute la sanctification. Mais avec ce passage, nous voyons que non, la sanctification, c'est pourquoi je disais que c'est une notion très complexe. Dieu nous sanctifie au travers des événements. C'est la parole qui sanctifie, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est là. Alors nous pensons que la parole qui sanctifie, c'est seulement ça. C'est vrai. Mais attention, quand Dieu me conduit, voyez-vous, eh bien, je demeure dans sa volonté. Je demeure dans sa parole. Il ne m'a pas dit, va là-bas. Mais il m'a laissé conduire par son esprit. Donc, je suis dans sa parole. Cet événement contre lequel je me bats est dans sa volonté. Et donc, en y restant, en obéissant, en laissant Dieu conduire les choses, eh bien, je vais ouvrir la porte à la sanctification, car la parole de Dieu sanctifie. Alléluia! Sanctifie-les. Je vous avais dit que, en hébreu, le mot davar, qui est traduit par parole, est un mot qui veut dire aussi événement. C'est un mot qui veut dire aussi chose, c'est-à-dire de quelque chose qui a une consistance. Voilà. Et donc, quand un hébreu parle des événements, eh ben, il va parler des varim, c'est-à-dire des paroles. Voilà. Et donc, les événements qui entourent notre vie sont l'expression de la pensée de Dieu alors qu'il est en train de nous conduire dans notre vie. Alléluia. Et donc, c'est ça. Pas toujours l'aspect moral. D'ailleurs, Genèse 2, 3, et nous allons terminer par là. Dieu bénit, lisez avec moi, Dieu bénit le septième jour et le sanctifia. Car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu sanctifia le premier jour et le septième jour. Si pour nous la sanctification, c'est seulement ce qui est moral, dites-moi, est-ce que dans ce premier septième jour, y avait-il plus de péchés ou moins de péchés que les six premiers jours? Dites-moi, y avait eu de péchés? Mais alors pourquoi Dieu parlait-il de sanctifier? Pourquoi Dieu dit il sanctifia? Eh bien, c'est simplement pour dire que le septième jour était un jour mis à part par Dieu et pour Dieu. En cela, ce septième jour-là était un jour saint. Un jour mis à part. Alléluia. Nous sommes un peuple saint parce que nous sommes mis à part par Dieu et pour Dieu. Donc, il y a six jours. Le septième est un jour qui est non ordinaire. C'est un jour saint parce que mis à part. Et aujourd'hui, le premier jour de la semaine, comme aujourd'hui le dimanche, nous pouvons dire c'est un jour saint. Alléluia. Parce que c'est un jour que nous mettons à part. Nous n'allons pas au travail, nous ne faisons pas ceci ou cela, mais nous venons à la rencontre du Seigneur pour être en communion avec lui et en même temps pour être en communion les uns avec les autres. En cela, le dimanche est un jour saint. Voilà, mes amis, ce que ça veut dire. Sanctifier est donc un acte qui indique que quelque chose, qu'un être, qu'un temps doivent être traités à part, doivent être mis à part. En l'occurrence, lorsqu'il est question de Dieu, cela veut dire que nous devons donner à Dieu la première place. Et en donnant à Dieu la première place, pendant que nous passons par des moments difficiles, eh bien nous les sanctifions. Et en les sanctifiant, lui finira par se sanctifier, c'est-à-dire par manifester sa gloire. par manifester sa puissance et sa grandeur en nous donnant les réponses qu'on attendait, en nous faisant sortir de cette situation difficile, en nous faisant asseoir quelque part sur un lieu élevé. Oui, la sanctification est un concept très très complexe. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà comment nous pouvons être sanctifiés au travers des événements que Dieu permet dans notre vie. Lorsque nous demeurons fermes, lorsque nous continuons à lui faire confiance, alors que tout se dégrade autour de nous, alors que nous n'avons peut-être plus d'argent, au lieu d'aller voler, au lieu de se prostituer, au lieu d'aller chercher du secours en Égypte, nous restons fermes, nous disons « Seigneur, même s'il faut que je mange de l'herbe sèche, j'en mangerai pour autant que je demeure dans ta volonté. » Eh bien, quand nous agissons comme ça, Dieu nous sanctifie et il finit par se sanctifier, par manifester sa gloire. Nous allons prier et prier également pour les offrandes. Nous te disons merci pour ta parole. Seigneur, combien de fois nous éprouvons des difficultés à comprendre tout ce que toi tu fais dans notre vie. Tu avais conduit Israël jusqu'à Kadesh. Tu savais, ô Dieu, qu'en cet endroit, il n'y avait pas d'oasis, il n'y avait pas de puits d'eau. Bref, il n'y avait rien, aucun fruit, un arbre fruitier. Mais cependant, tu as conduit ton peuple jusque-là. Tu voulais que ton peuple, Seigneur, apprenne à te faire confiance. Tu voulais, ô Dieu, que Moïse te sanctifie aux yeux de son peuple. Mais malheureusement, et Moïse, et le peuple lui-même, Seigneur, ne t'ont pas sanctifié. Et tu as fini par te sanctifier toi-même, Seigneur, en manifestant ta grandeur par la sortie de l'eau de ce rocher. Apprends-nous à te faire confiance. Merci pour tout. Merci de bénir également ces moments consacrés aux offrandes, aux dîmes, mais aussi au soutien, Seigneur, de notre œuvre de construction. Au nom de Jésus. Amen.